Dans les dernières années de sa vie, ma grand-mère est atteinte de la maladie d'Alzheimer, comme on dit. Je connais bien ma grand-mère. Sa vie, non. À cette époque, j'habite loin d'elle, et j'écris tous les jours une thèse qui n'en finit pas de finir. Le moment du point final, que j'aperçois, ne cesse de reculer. Je suis dans un autre pays, alors qu'elle s'enfonce dans Alzheimer et ses oublis. Je comprends confusément que quelque chose cloche quelques années plus tôt. Un soir où je dîne avec mon grand-père et elle. Nous allons dans le petit restaurant où je les retrouve habituellement. À deux pas de là où ils habitent la moitié de l'année. On y mange des spécialités de leur enfance en langue originale. Gehacktleber, foie hachée aux oignons. Knedler, boulette à base de pain azim. Krepler, ravioli farci à la viande et autres délicatesses du monde disparu. Je m'assois face à eux deux, et comme eux, je commande une assiette de bouillon. Ils mangent bruyamment, penchés sur leurs assiettes. Ils sont concentrés, leurs cuillères tremblent légèrement. Ça fait quelque temps que je ne les ai pas vus. Leur âge me saute à la figure. Soudain, ils ont vieilli. En écoutant ma grand-mère ce soir-là, je sens que quelque chose ne va pas. Ces phrases dessinent des boucles entêtantes et répétitives, finissent là où elles commencent et se fondent les unes dans les autres. Elle parle, mais ne raconte rien. J'appelle mon père. Oui, effectivement, ça ne va pas. Ce n'est pas juste qu'elle vieillit. Elle est malade, me dit-il à mi-mot. Elle est malade de cette maladie qui embrouille les mots et efface lentement les visages des êtres aimés. Les histoires de ma grand-mère cèdent la place à des bribes de phrases revenant d'une conversation à l'autre auxquelles elle s'accroche comme à des bouées pour ne pas sombrer. Mon grand-père dissimule la maladie autant qu'il peut, dans un secret à peu près hermétique. Il ne veut pas que ça se sache. Il supplée les errances langagières de ma grand-mère, les camoufle en leur donnant un début et une fin. Mais tout le monde finit par s'en rendre compte, et mon grand-père finit par mourir. Lorsqu'il meurt, nous sommes tous autour d'elle. Son Alzheimer est au grand jour. Je sonde sa tristesse maladroitement, lui demande comment elle se sent. Elle me regarde, avec son regard d'avant, et m'interroge de sa voix d'avant. « À ton avis, comment je me sens ?» C'est son dernier trait d'esprit dont je me souvienne. Un esprit dont elle était si pleine. Mes visites s'espacent, et d'un passage dans son salon à un autre, des pans entiers d'elle s'écroulent. Elle se vide de ses souvenirs. Elle perd les coordonnées du monde, les noms, les lieux, les dates. Chaque fois que je me tiens près d'elle, j'ai l'impression d'ausculter ce qui lui reste de mémoire, de mesurer la transparence et l'opacité de ses souvenirs. Un jour, je ne sais plus exactement combien de temps après la conférence, je me mets à écrire sa vie à la première personne du féminin. Une autobiographie de ma grand-mère. En surface, j'écris pour continuer à écrire quelque chose quand je ne réussis plus à écrire ma thèse. Dans les profondeurs, je vais son jeu et le calfeutre avec des mots alors que ses mots à elle se mettent à fuir. Je glisse entre les pages des secrets, des talismans, des passages à la ligne et de belles phrases joliment déposées sur la page, tout droit sorties d'un livre de Pérec. Je remonte le cours de mes souvenirs, elle le redescend. On se croise entre ici et là, sur cette page. J'entrecroise nos voix en une danse typographique trop travaillée. Là, en suivant les méandres d'un cut-up bancal. Elle est là, assise dans le livre comme dans son canapé, pleine d'amour et d'oubli. Elle ne voit pas de quoi ça parle. Je me mets à reconstituer son enfance à partir des quelques lambeaux de son histoire dont j'ai hérité. Je me donne pour règle d'écrire strictement à partir de ce qui, de sa vie, a été déposé en moi. Je m'interdis toute forme de recherche ou d'enquête. Pas de questions non plus à mon père sur sa mère. C'est une manière de respecter son silence. Ce qu'elle ne m'a jamais dit ne sera pas dit dans le livre. J'interroge ses langues. Je me rappelle un jour un livre pour enfants écrit en allemand. Der Struwwelpeter, rangé dans un coin de sa bibliothèque à l'étage. Avec ses ongles de mal d'aurore et sa tête perdue dans un monceau de cheveux blonds hérissés, en permanence électrisé, ce petit monstre me paraît beaucoup trop loin. Je préfère les brigands d'Ungerer, avec leurs chapeaux noirs et leurs tromblons. Mais le Struwwelpeter, c'est elle. C'est un souvenir d'enfance. Je le mets dans le livre. Je l'utilise pour tracer un trait d'union entre nous. Je n'ai pas souvenir d'elle me le lisant. Elle me traduit le livre, je crois, de sa langue maternelle à ma langue maternelle. J'imagine que Der Struwwelpeter est intact, de l'autre côté du seuil. Dans son enfance à elle, là où Alzheimer n'est pas encore arrivé avec son rouleau compresseur. Comme elle oublie, le livre doit oublier aussi. Oublier de cet oubli involontaire qui s'appelle Alzheimer et qui transforme peu à peu les êtres aimés en ombre d'eux-mêmes. Oublier de cet oubli mortifère qui force les proches des malades à un deuil long et progressif. Le deuil inconcevable d'un parent vivant et méconnaissable. Comment écrire ce livre qui oublie? Comment ça parle, l'oubli? Existe-t-il un truc pour transmettre la sensation de l'oubli? Cette histoire de truc me désespère. Parce que truquer la réalité est à la fois inévitable et à l'opposé de ce que je désire. Et comme je ne sais quasiment rien de ses souvenirs, je ne réussis même pas à me figurer ce qu'elle oublie. Mon livre se peuple d'individus sépia, d'enfants sages à bretelles, de murs tapissés de vieux roses. Au centre de l'édifice fantasmatique trône une immense bibliothèque. Dans cette bibliothèque, tous les classiques de la grande culture allemande imprimés en lettres gothiques, reliés dans des cuirs sombres et frappés de lettres d'or. Plus je me rapproche d'elle, plus je m'écarte de mes mots. J'imite ma grand-mère dans le vide. J'enrobe le peu de souvenirs qui me sont parvenus d'un flot d'adjectifs dont je me sers comme on se sert d'un tuteur pour faire tenir une plante fragile qui menace de s'effondrer. Je m'accroche à des symboles. J'ajoute des points de suspension, j'abuse des blancs. J'utilise des citations pour consolider le tout. Le silence obstiné transmet la mémoire aussi sûrement que les pleurs ou les murmures. Shaul Friedlander. Une phrase me vient en français. Le silence, mon gène récessif. Je participe cet été-là à un atelier de musique et de poésie au bord d'un lac, au Canada. Je la mets dans un poème en anglais. Silence, my recessing gene. Quelques mois plus tard, je fais lire le poème à un ami américain. Il y a une faute, me fait-il remarquer. Il faut écrire Silence, my recessive gene, pas recessing gene. Je comprends avec le peu de recul que j'ai ce jour-là que le récessif est l'essence même de ce qui nous échappe et nous fait agir sous l'impulsion d'une force extérieure à notre volonté. Un adjectif, recessive, et pas un verbe, recessing. Un silence dont on hérite inconsciemment et qu'une faute d'orthographe fait un jour remonter à la surface de la conscience. Mon autre grand-mère, ma grand-mère silencieuse, vient se greffer à ma grand-mère qu'Alzheimer fait taire. J'écris un livre sans souvenir pour donner une voix à mes grand-mères, me dis-je. Et je formule ce beau chiasme pour tenter de me représenter ce que je fais. Lier le silence de la mémoire à la mémoire du silence. Non, le silence n'est pas vide. Il est plein d'un héritage dont il faut parvenir à déchiffrer les signaux brouillés. Je commence à comprendre, cas un cas, que ce silence crypté ne transmet pas la mémoire, mais l'oubli.